L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Oui, l'Afrique dans tous ses états, c'est toujours avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine.
Et nous recevons pour le deuxième épisode Ibrahima Traoré, médecin de l'OMS. On a déjà commencé à voir le début de son parcours, toujours accompagné de Laurence Siabrini, voyageuse au Burkina, qu'on n'a pas beaucoup entendu la première fois, mais qu'on va peut-être entendre la deuxième.
Peut-être,
on verra ça. Alors, Ibrahima Traoré, donc on a vu vos débuts finalement dans la médecine tropicale, dans les essais, comment vous avez appelé ça, non pas les essais, mais les...
Oui, c'est vrai, c'est un peu...
Ce sont des essais
cliniques.
Cliniques, les essais, voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et là où vous en êtes aujourd'hui, quel est ce grand pas de géant que vous avez dû faire entre le moment où on s'est quitté la dernière fois et puis là où vous êtes ici à Montpellier en 2020?
Ah oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que la dernière fois, à la fin du décès clinique, j'étais allé faire des études effectivement d'épidémiologie au Bénin. Et c'est une ville qui s'appelle Ouidah, d'ailleurs célèbre parce que c'est la porte de non-retour des esclaves.
Hein. Oui, tout à fait.
C'est une ville qui est très connue. Mm. Donc, ayant obtenu effectivement le diplôme d'épidémiologie générale, on appelle ça la maîtrise scientifique en épidémiologie. Quoi. Bon, et revenu au Mali, c'est là qu'on a commencé à travailler avec l'OMS. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que l'OMS appuie, accompagne sur le plan technique et financier, en fait, les pays qui, de plus en plus, sont en épidémie, surtout par rapport à la polio. Ils appellent ça, c'est un partenariat public et privé, c'est-à-dire qu'ils mettent le pays au centre, mais il y a des partenaires privés qui sont du côté de l'OMS, et comme il y a des partenaires publics, c'est l'État, le ministère de la Santé de l'État. Et donc, parmi les partenaires privés, il y a bien entendu l'OMS lui-même, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, il y a aussi le Rotary Club, mais voilà quoi. Il y a d'autres partenaires aussi qui interviennent individuellement, mais qu'on ne cite pas parce qu'ils font des actions ponctuelles. Alors, le gros du problème, c'était quoi? En fait, on était utilisé dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies et en plus dans le cadre du programme élargi de vaccination. Vous savez que chez nous, on dit qu'il y a 80% des maladies qui sont évitables par le vaccin. Donc, on a presque 9 vaccins qui sont utilisés. Et puisque l'État n'a pas tellement les moyens d'acheter les vaccins, de stocker et ensuite les envoyer au plus profond du pays, en milieu rural, donc pour souvent les utiliser. Pour ces activités-là, ça demande non seulement de la compétence et de la logistique. Donc, l'OMS nous recrute, nous, en tant que consultants, avec des stratégies connues, des activités spécifiques à faire et sur le bout de fond de formation et avec des outils d'évaluation pour que ces activités se passent correctement. Et après les séances de vaccination, on a aussi des outils d'évaluation qui permettent de savoir, par exemple, pour une rougeole, normalement, c'est 89% des enfants qui doivent être vaccinés. Eh bien, par exemple, la polio, on demande que ce soit 100% parce qu'un seul cas de poliomyélite dans un État, l'État est en épidémie. Donc, vous voyez, nos États tels que le Mali, je pourrais parler spécifiquement du Mali, n'ayant pas tellement les grands moyens, parce que la structuration des services de santé, ça va du niveau, on va dire, commune, c'est-à-dire qu'au niveau sous-préfecture chez nous, après la préfecture, au niveau de sous-préfecture, il y a ce qu'on appelle le CESCOM, Centre de Santé Communautaire, qui, vous allez trouver qu'il y a 5 ou 6 ou 7 sous-préfectures qui sont reliées à la préfecture qui s'appelle le CCRF, c'est-à-dire le Centre de Santé de Référence. Donc, ce Centre de Santé de Référence stocke les vaccins et distribue les vaccins au CESCOM pour les journées de vaccination. Puisqu'il n'y a pas de chaîne de froid à ce niveau-là, donc c'est le CCRF qui garde les vaccins pour ces centres-là. Bon, nous sommes effectivement recrutés pour suivre toute la chaîne depuis le niveau central, c'est-à-dire Bamako, la direction nationale, aux directions régionales de santé, d'abord pour la mise en place de toutes ces structures, la logistique, les outils pour les évaluer, les contrôler, et voilà quoi.
Donc ça, c'est toujours valable. Ça, c'est ce que vous aviez vécu il y a quelques années.
Ah oui, mais ça, c'est, ça continue.
C'est toujours comme ça que ça fonctionne.
Oui, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. En fait, donc, à cause de nos résultats un peu en dehors de la capitale, dans les autres provinces, on a été amené à être retenu pour la capitale Bamako. Il y avait 6 communes. Donc, je suis resté quand même consultant un an pour la ville de Bamako parce que c'était important, c'était voilà, avec toutes les raisons. Quoi. Bon, c'est au cours de ces activités que j'avais rencontré aussi, ils appellent ça l'officier manager de polio qui venait de Ouaga, parce que le bureau sous-régional OMS Ouest-Africain est à Ouaga. Donc, lui, il est venu à Bamako, on a travaillé, effectivement. Bon, il m'a dit, bon, écoute, cher Ibrahima, il est temps que tu puisse aller un peu de l'avant, je te donne des références, envoie tes dossiers là, et voilà quoi. Donc en fait, il m'avait un peu poussé à encadrer, à postuler pour la formation du CDC Atlanta, parce que pour franchir, quand on est consultant de l'OMS au niveau pays, ton propre pays, tu t'appelles consultant national. Eh bien, pour être consultant international de l'OMS, il faut passer forcément par la formation du CDC Atlanta qui se passe entre décembre et janvier. Eh bien, quand le docteur Dutabé, c'est vrai, c'est un Tchadien, donc il m'avait poussé. Parce qu'avant de faire ça, il m'avait fait déjà faire des missions en Mauritanie, en Guinée, donc au Burkina. Donc j'avais commencé à aller appuyer des campagnes là-bas. C'est. Au vu de ces campagnes et peut-être au vu de nos rapports, ce qu'on produisait, qu'il m'a dit, écoute, essaye de dépasser ce stade, vas-y beaucoup plus loin, propose tes dossiers ailleurs, on verra si on va te prendre. Et effectivement, on m'a pris. Donc, de retour de Atlanta, on est resté là-bas décembre 2013. Donc, je suis revenu à la maison le 29 janvier jusqu'à 2014. Et là, je suis allé à Afro, c'est-à-dire qu'il y a le siège régional Afrique du bureau OMS qui se trouve au Congo-Brazza. Et là, j'avais été muté là-bas au Congo-Brazza. Je suis resté février-mars. En fin mars, quand on était en réunion de débriefing tous les matins, un jour, ils ont mis à l'écran que le virus avait été réapparu au Cameroun. Eh bien, tout de suite, le patron, le docteur Deo, a dit, bon, mais écoute, envoyez tous les consultants au Cameroun. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un premier temps au sud du Cameroun. Je suis arrivé à Yaoundé, donc on était à Douala, préparé cette réponse-là. Et puis donc, j'étais muté au sud du Cameroun, dans une région qui s'appelle Ebolova, qui fait frontière avec le Gabon.
Donc, ça fait déjà beaucoup de pays africains,
oui, ça fait déjà beaucoup de pays, beaucoup de zones différentes avec des langues ethniques différentes.
Ah oui, c'est vrai que en matière de langues et d'ethnies différentes, on se rend compte effectivement que
tout à fait.
Depuis la Mauritanie, la Guinée, Congo-Brazza et Cameroun, on se rend compte qu'effectivement, bien que nous sommes sur le tutelle africain, mais vraiment nous sommes différents. Moi, mon hôtel en Mauritanie était juste à côté d'une grande mosquée. Je me considérais bien comme musulman, donc je suis allé pour la prière de vendredi. Là, Marie-Claude, je vous assure que c'est pas la même chose, vraiment.
Je sais.
Voilà.
Donc, c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs.
Ouais, moi, je suis arrivé, j'étais presque au premier plan, mais au moment d'officier la prière, on est venu me dire d'aller derrière, quoi. Effectivement, c'est...
Parce que vous étiez noir.
Ah, voilà, c'est ça. Oui,
en Mauritanie, les Blancs, les Noirs, c'est terrible.
En Mauritanie, ça, c'est une réalité.
Ouais.
Par contre, les Guinéens sont très accueillants. Alors là, on a été... À la limite, on s'est beaucoup éclaté en Guinée. Surtout qu'ils parlent ce qu'on appelle le malinké, qui se ressemble beaucoup plus au Bambara. Donc, quand ils parlent, nous, on comprend très bien. Donc, ça a été... Et au Burkina, on était vraiment à l'aise, quoi. Mais arrivé au Cameroun, d'abord, on a vu, nous, on n'a pas cette liberté sociale, je veux dire, comportementale sexuelle, qui est très différente. Nous, c'est assez discret. Mais ce qui saute à l'œil au Cameroun, c'est cette liberté-là, quoi, les gens. C'est vraiment pas du tout la même chose que nous. Donc, la société au Cameroun... Et après, il y a... Comment ça s'appelle, comme je disais à Marie, De façon générale, les Africains sont un peu réservés. Hein. Mm. C'est dû à notre contexte socio-culturel, parce que on est tous ensemble ici, on ne parle pas la même langue. Alors, ce qui fait qu'on se méfie un tout petit peu les uns des autres, au prorata des années, vous avez tellement ces comportements-là que face à un autre étranger, c'est le même comportement. Quoi. Mais j'ai senti qu'au Cameroun, c'est vraiment exacerbé. Hein. C'est dû peut-être parce qu'ils sont... Nous, on est une trentaine d'ethnies chez nous, mais au Cameroun, ils sont 230, quoi. Alors, nous, on a l'avantage que les autres ethnies parlent le Bambara pour pouvoir communiquer avec nous, mais au Cameroun, vous avez à partir du centre déjà, le nord parle le peul et leur propre dialecte, mais au sud, chacun à l'ouest, au sud, voilà, tout le monde parle sa propre langue. Mmh. Et ce qui fait que les gens vraiment se méfient les uns des autres. Ceux-là qui du nord.
Est-ce que c'est vraiment le terme, se méfier? Est-ce que c'est juste pas parce que, bon, ils se connaissent pas simplement, donc c'est plus difficile de rentrer en lien, en relation? Mais est-ce que c'est de la méfiance pour autant?
Parce qu'il y a une habitude chez nous, d'ailleurs, j'ai remarqué ici. Chez nous, moi, je peux voir Laurence dans la rue, et je peux lui parler ma langue et dire, ma belle, comment ça va? Mais ici, ça ne se fait pas.
Donc, ici, à Montpellier?
Ben, je veux dire, en Europe, ici, ce n'est pas facile d'aborder une personne.
Ben, ça dépend si vous connaissez Laurence ou pas.
Mais, bon, chez nous, justement, tu n'as pas besoin d'avoir... Tu n'as pas besoin de connaître Laurence. Moi, je peux l'avoir dans la rue comme ça, on ne s'est jamais vu. Je peux lui parler.
Mmh. Ouais.
Mais, donc, c'est pour dire le mot méfiance, ça arrive, quoi. Normal.
Ouais.
Chez eux, là-bas, au Cameroun, à moins que tu lui proposes une bouteille de bière, là, il va adhérer. Mais sinon...
Sinon, ça ne se fait pas non plus.
Bon, non, parce qu'ils sont beaucoup plus enclins à... Je me dis, hein, c'est peut-être la nature du pays, comme chez nous tous. Les pouvoirs politiques ont géré les pays de manière à ce que, économiquement... Les gens deviennent dépendants les uns des autres. Et après, c'est un cercle infernal. La société devient assez pourrie. Donc, à côté de cette méfiance, les mecs sont vraiment enclins à la corruption, au profit. Mmh. Ben, je ne dis pas pour le Cameroun seulement, il y en a chez nous aussi. Quoi. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font...
Oui, mais et puis dans l'histoire de l'Afrique, quand même, les Camerounais sont quand même fiers de dire qu'ils ont été pratiquement les seuls à résister aux colonisateurs, qui se sont battus les armes à la main. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire ça par les Camerounais, en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais c'est ça aussi. C'est vrai que les Camerounais, ils ont beaucoup résisté. Et comme
ils ont été résistants, oui.
Ouais, tout à fait, comme chez nous aussi. Je crois qu'il y a, aussi... comment ça s'appelle, c'est les Béninois aussi, je crois. Mais c'est ça, justement, ce sont ces périodes-là que nous regrettons. Imaginez, si je reviens au cas du Mali, au XIIe siècle où il y avait Sundiata Keïta, bien que c'était l'oralité, ce monsieur analphabète, à 100%, était arrivé à prononcer des mots dans le cadre de la gestion de l'Empire du Mali, qui s'étendait jusqu'à Bouaké, pour la gestion du peuple. Mais on s'est rendu compte, peut-être au 19e siècle, je ne sais pas, au 18e siècle, qu'en fait, tout ce qu'il récitait relevait du droit de l'homme. Et c'est ce qu'ils ont appelé Kurukanfuga. Donc, au 12e siècle, un roi comme ça, africain, analphabète, arrivait à élaborer des stratégies ou alors des méthodes ou alors je ne sais pas quoi, pour la gestion du peuple et de ses biens. Mais c'était tout était sur l'oralité. Et quand vous voyez tout ce temps passé, qu'on revient au XXe siècle, parce que chez nous, hein, le colonisateur était là, je crois, 1895,
1960. La fin du 19e, quoi.
Voilà, c'est ça, quoi. Donc c'est après ça, justement, que les choses ont vachement changé. Nous, on avait un premier président qui s'appelait Mouloud Keïta. En 1960, il a été élu. À l'époque, la guerre de l'Algérie déjà avait commencé en 1958. Mouloud était intimement lié au président de l'Algérie, qui avait demandé son soutien pour l'aider à vaincre l'armée française. Et puisque l'armée française était installée à Tessalit, Gao, les positions qu'ils gardent aujourd'hui, ils étaient là-bas en 1959-60. Et puisque le président Mouloud Keïta avait eu c'était l'indépendance en 60. Donc il a décrété la République du Mali pays non aligné et a demandé à la France de plier bagage. Mais ça, on ne dit pas. Donc les positions actuelles que Barkhane occupe, ils avaient été chassés du président du Mali par le président Modibo Keïta en octobre 61. Bon, ils sont partis. Ça a permis à l'Algérie, donc l'armée malienne aidait l'Algérie. Bon, ces pays-là, ces républiques africaines qui avaient l'honnêteté, les bonnes manières, les bonnes stratégies, là, jusqu'en 68, 70, on ne parlait pas de corruption. Vous voyez, donc, c'était des pays bien dirigés, franchement.
Oui, il y avait des stratégies vraiment
qui étaient mises en place
pour le pays essentiellement.
Voilà. Et petit à petit, nos pays ont commencé à dévier. Eh bien, pour la simple raison que, enfin, ça c'est peut-être ma petite analyse. Marie-Claude, je crois que dans le monde, il y a ce qu'on appelle entre guillemets un repli communautaire.
Tout à fait.
Et le repli communautaire, je ne parle pas de l'aspect religion. Mais un repli communautaire par rapport géographique. On va dire, le meilleur exemple en date, c'est la Chine par rapport aux autres.
Tout à fait.
Dans le cadre de cette histoire de 5G, de Huawei. Mais il y a aussi le repli communautaire donc, qui permet aux États d'en faire leur précaré une chasse gardée. Donc pour l'économie. En ce moment, il n'y a plus de raison d'amitié, mais c'est vraiment des raisons d'État. Ce qui explique le comportement aujourd'hui par rapport aux Chinois, aux pays africains, où le repli communautaire, donc les besoins de stabilité économique des autres pays, font qu'ils sont obligés de tirer profit chez nous et maintenir nos pays dans cet état-là pour qu'eux, ils progressent. À la limite, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pour le bien-être de notre population.
Tout à fait.
Mais on va dire, ils s'en foutent du bien-être de... L'histoire, par exemple, de Thomas Sankara, vous connaissez très bien.
Oui.
Il est parti de Mbeyaba. À l'époque, les années 80, les pays ouest-africains avaient des véhicules présidentiels comme une boîte qui s'appelait 505. Thomas Sankara s'est rendu compte que la centaine de 505... En termes de carburant, un mois seulement, c'était un budget colossal. Il a dit, oh, je peux changer ces 505 à Renault 5. Mais à y voir de près, mais une Renault 5, avec 10 euros, on faisait le plein. Alors qu'il fallait peut-être 50 euros pour le plein de 505. Donc les 40 euros sur 100 véhicules par mois, ça faisait une petite économie. Il dit, bon, il va aller à l'économie de partage. C'est-à-dire que dans ces cas, il va même arrêter les importations et pour qu'au moins le pays bénéficie. Sauf que, dans un monde où, entre guillemets, les républiques communautaires, c'est-à-dire pour sa propre économie, chacun défend sa propre économie, on ne va pas lui permettre de continuer sur cette lancée. Mais parce qu'il y en a qui vont s'inspirer de son cas et voilà. Bon, c'est pour vous dire que dans ce repli communautaire, il va très loin. Il va très loin. Ce qui explique que certains pays, enfin des pays, ont maintenu le nôtre dans un contexte de non-croissance. Les gens ont l'impression que peut-être en Afrique, on n'a pas des gens intellectuels, des gens capables, des gens qui ont des compétences pour faire avancer le pays, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a vraiment un blocage délibéré. Je crois que tout dernièrement, on a annoncé. En fait, au niveau de la BCAO de l'Afrique de l'Ouest, on a annoncé qu'il y a deux fonctionnaires qui ont le droit de veto par rapport à 14 chefs d'État.
C'est énorme.
Bon, donc, tu vois, c'est des détails. Mais ce n'est pas une histoire de Français ou Africains, non, mais c'est une histoire qui découle du repli communautaire, dans lequel c'est un repli communautaire où les dirigeants ici sont obligés de défendre le développement, la croissance ici. Imaginez, nous, les Burkina, le Mali, je ne sais pas, en dehors de la Côte d'Ivoire, on est encore l'indice de développement humain, nous, on est à 180, 185e, ça veut dire qu'on est à 0,3, 0,4, alors que les Scandinaves, je crois, les pays nordistes, on est l'indice humain, ils sont dans les 10, 15 premiers. Ils ont l'indice de développement humain à 0,9, je ne sais pas, 0,90. Bon, à y voir de près, si je prends juste dans le domaine de la médecine, vous avez tous les mecs qui ont fait des formations ici ou bien en Belgique. Donc, ils ont des compétences avérées quand même pour pouvoir faire la promotion quand même du développement chez nous. Mais c'est vrai qu'on ne laisse pas faire, quoi.
Justement, je voulais intervenir parce que quand on parlait tout à l'heure de repli communautaire, et quand on... Moi, ce que j'ai vraiment découvert en Afrique, et notamment justement dans les milieux de santé, c'est qu'au contraire, tout à l'heure, il en a parlé, Ibrahima, c'est quand même qu'il y avait des centres de santé communautaires, qu'il y a un communautarisme, justement, institutionnel, culturel, qui fait que, normalement, c'est le système qui s'instaure en Afrique. Et quand on parle de repli communautaire, on voit bien comment on est à l'anti... Vraiment, c'est complètement l'antithèse, c'est complètement le... Il y a quelque chose qui est complètement déréglé par rapport au système naturel africain. Donc on voit bien comment, comment l'Afrique s'enferme, justement, dans nos systèmes à nous. Nous, déjà, on s'enferme bien, mais bon, on vient aussi d'une autre histoire, et on a... Et le particularisme, etc., c'est quand même plus européen, occidental. Mais moi, je me dis, c'est ahurissant. Tout à l'heure, quand Ibrahima parlait de repli communautaire, je me dis, mais alors que c'est un continent, un pays, en tout cas plusieurs pays, qui fonctionnent sur cette ouverture-là de la communauté, et où tout le monde à un moment a sa place, etc., malgré les 300 et quelques ethnies, ou 600, ou je ne sais pas quoi, et les langues, etc. Quoi.
Tout à fait, tout
donc
à fait.
Donc on est dans des aberrations, là, complètement. Quoi.
Non, forcément, ça, forcément.
Mais bon. Et ça me fait, bon, alors je pense qu'effectivement, le docteur Traoré est bien placé, puisqu'il s'est quand même déplacé, justement, en Afrique, un petit peu dans plusieurs pays, et ça lui a permis peut-être, justement, de constater ces choses-là, à la lumière de cultures différentes, parce que l'Afrique, ce n'est pas la même culture du tout, en fait,
ne
pas confondre.
Non, hein. non.
On parlait du Cameroun tout à l'heure, bon, on parle du Mali, rien à voir. Peut-être le Mali ressemble un peu plus au Burkina, encore que. Enfin, je veux dire, il y a donc...
Plein de nuances.
Moi, je me dis que c'est énorme, quoi. C'est un enfermement comme ça, actuel, qui est terrible, quoi. Et je comprends que pour un Africain qui réfléchit et qui voit les choses d'une façon plus large, c'est quand même sûrement violent, quoi.
Par exemple, j'ai juste un petit exemple. La chaîne de froid est essentielle pour la vaccination. Et puisqu'on est un pays sahélien, donc il y a plein de soleil, je crois que le matériel et les congélateurs ont été donnés par le Japon. C'était sous forme de dons, c'était leur appui par rapport au PEV, et que les vaccins étaient donnés par l'UNICEF. D'accord. Mais et donc le personnel, comme nous les consultants, c'était fourni par l'OMS. Mais à un moment donné, on dit, mais pour pouvoir mettre des congélateurs au niveau des CESCOM, la moindre des choses, c'est d'avoir des congélateurs qui fonctionnent sur le panneau solaire.
Tout à fait.
Ah ben, et ça n'a pas pu se faire. On a dû essayer d'avoir des informations, mais ce n'était pas possible. Mais à un moment donné, quelqu'un a dit non, on ne vous laisse pas installer ces congélateurs-là. Mais pourtant... Un œil extérieur ne va pas comprendre pourquoi le Mali, le Niger, vous avez plein de soleil. Au moins au niveau rural, vous pouvez quand même installer des congélateurs solaires. Sauf que ce n'est pas un, il faut peut-être 1500, 2000. Et là, ça fait des milliards. Déjà, à ce niveau de coût, à 1 milliard, déjà, le Mali ne peut pas, ne peut pas du tout faire un appel d'offres sans passer par qui les droits.
C'est sûr que la question du solaire, elle est terrible parce que moi je vois, vous allez en Espagne, en Andalousie où c'est pareil, c'est un climat très ensoleillé, ils ont des champs de panneaux solaires vraiment. Et quand on arrive en Afrique, on se dit, ben voilà, l'énergie, elle est là.
C'est vrai, il n'y a pas longtemps, je crois finalement, ils ont détaxé les plaques panneaux solaires et... Quoique ça reste toujours...
Il y a des
toujours...
essais, il y a des tentatives, il y a des endroits...
Quoique ça reste toujours cher, mais bon, il y a des individus. Je pense que l'État est en train de se mettre... Moi, en 2015, je crois qu'ils avaient... Le Japon avait donné, faire cadeau de... D'accord faire cadeau de ces matériels-là, que c'était un essai. Donc, ce que je voulais dire, j'allais juste continuer pour expliquer pourquoi je suis arrivé ici, peut-être. C'est parce que...
il reviendra.
Bien sûr, il reviendra parce qu'il n'a pas fini, là.
Oui. Parce que oui, donc, pourquoi on peut expliquer peut-être la présence de Laurence aussi? Et peut-être on en parlera la prochaine fois.
Alors. Bah, c'est ça justement, ouais, c'est ouais. Vrai que...
Ouais, on peut continuer comme ça parce qu'il n'a pas fini.
Non, bien sûr. pour l'heure, on s'arrête quand même.
Oui, on va s'arrêter, c'est Laurence. Hein c'était intéressant, non? Parce que Laurence était là aussi en tant que voilà, soutien, voilà, et puis soutien du docteur Traoré dans une épreuve qu'il vient de vivre chez nous, et, voilà, et qu'il a traversée... On décide qu'on se revoit ?
Oui, d'accord, ouais. On se revoit.
C'est d'accord pour qu'on se revoie ?
Il n'y a pas de souci.
On continue le débat ?
D'accord.
On continue à refaire l'Afrique un peu avec les panneaux ou sans panneaux solaires ?
Ah, d'accord, il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce d'accord, qu'on écoute ?
Alors, on va écouter Demba Chekina de Tamani Diabaté.
Toumani Diabaté,
qui est un super joueur de kora, un instrument magique.
Ouais.
Voilà, et donc on se dit à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Okay. Merci bien. Au revoir.